aujourd'hui la masterclass de Dominique Perrault avec Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci au public présent ici au Centre Pompidou. Bonjour à vous, Dominique Perrault. Vous êtes architecte et nous allons, dans l'heure qui vient, parler de votre travail, de la manière dont vous concevez votre architecture, de votre parcours aussi. Et ce qui frappe justement dans ce parcours, Dominique Perrault, c'est d'abord la vitesse. Vous aviez 28 ans quand vous remportiez votre première commande pour construire une usine. C'était à Châteaudun. À 36 ans, vous aviez déjà bâti un complexe de logements à Rezé, ainsi que l'école d'ingénieurs de Marne-la-Vallée qui accueille 2000 étudiants. À 40 ans, vous livriez ce grand rectangle de verre qu'est l'hôtel industriel Berlier dans le 13e arrondissement de Paris. Et à peu près en même temps, vous étiez lauréat, on s'en souvient, du concours pour la Bibliothèque nationale de France, bâtiment sur lequel, évidemment, on reviendra longuement au cours de cette masterclass. Alors après la BNF, vous avez beaucoup construit à l'étranger, à Berlin d'abord avec le Vélodrome et la piscine olympique, c'était dans les années 90, mais également au Luxembourg avec ces deux grandes tours de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne sont pas d'ailleurs sans rappeler les tours de la BNF, et puis en Espagne, l'hôtel Mi Barcelona en 2008, le centre olympique de tennis de Madrid, en Corée, avec l'université des femmes Iwa de Séoul, c'était en 2008, et puis plus récemment encore à Paris, l'hippodrome de Longchamp, qui vient d'être inauguré, et puis en ce moment est en chantier la Poste du Louvre. On ne pourra évidemment pas tout citer, Dominique Perrault, en tous les cas, surtout au début de votre carrière. Ce qui frappe, c'est donc, je le disais, que ce soit allé très très vite. Est-ce que ça vous a étonné, cette rapidité?
Oui, bien sûr, ça surprend, mais on n'a pas le temps de s'en rendre compte. Ça va tellement vite qu'on est porté. Pour revenir un peu plus dans le temps et à l'origine, il y a mon diplôme d'architecte qui a beaucoup compté. Pas spécialement, si on peut dire, du point de vue du design ou d'un point de vue stylistique, mais plutôt de la réflexion sur la ville et du positionnement de l'institution par rapport au quartier, par rapport au territoire. Puisque ce diplôme était consacré à la cartographie des 11 mairies qui ont été réalisées dans la deuxième partie du 19e siècle et qui consistait à marquer les territoires conquis, les communes annexées, de façon à ce que Paris, que nous connaissons aujourd'hui, avec ses 20 arrondissements, ait une surface et un territoire nouveau. Donc, République, positionnement de la République par rapport à des territoires qui sont des territoires de transformation. La bibliothèque en fait partie à sa façon. On pourra certainement reparler entre l'introversion et l'extraversion du rôle du monument dans la ville.
Donc vous avez fait votre diplôme sur ces mairies, vous avez fait votre diplôme sur l'histoire dans la ville d'une certaine manière, et ce n'est pas tellement étonnant puisque vous avez en fait plusieurs diplômes, Dominique Perrault, un diplôme d'histoire, puisque vous êtes historien aussi, et puis un diplôme des beaux-arts. Donc vous êtes un petit peu ces trois choses à la fois, un historien, un architecte et un artiste. Le rapport à l'histoire par exemple?
Je suis un faux historien d'une certaine façon, dans la mesure où j'ai plutôt fait un travail de géographe, c'est-à-dire que je me suis appuyé sur l'histoire plus pour définir des territoires, les comprendre, les évaluer, les mesurer, les transformer, et ça a nourri effectivement mon travail d'architecte, puisque tous ces projets, qui sont souvent des grands projets, souvent aussi des commandes publiques, donc il y a un engagement particulier, il y a évidemment une responsabilité qui est particulière au regard du commanditaire, touche la transformation des villes, des métropoles en Europe, mais aussi de par le monde. Donc c'est l'histoire pour moi est plus un prétexte pour travailler la géographie que pour faire un travail des annales et savoir exactement qui est qui et qui fait quoi et où chacun habite. Là, c'est plutôt comment nos villes et nos structures se montent et se démontent, comment elles se transforment. Et c'est vrai que je voulais faire un doctorat à l'École des hautes études, et je l'avais préparé, sur le faubourg Saint-Germain pour faire un peu le pendant, d'une certaine façon, ou plus exactement l'écho entre ces mairies qui mettaient en place la République avec une volonté de créer des avenues, des places, des espaces publics, enfin tout un dispositif de contrôle aussi, mais en même temps d'urbanité, donc cette transformation de Paris au XIXe siècle. Et je voulais faire donc l'écho, la résonance avec le XVIIIe siècle, donc dans le Faubourg Saint-Germain, avec les cloîtres. Et les cloîtres étaient, à leur façon, les mairies de l'époque, c'est-à-dire elles marquaient le pouvoir, enfin ces cloîtres marquaient le pouvoir de religieux et organisaient, mais de façon introvertie. Et c'est pour ça que là aussi il y a un écho par rapport à la bibliothèque, dans cette relation de fermeture, mais en même temps de présence et d'organisation d'un système urbain autour de soi.
La bibliothèque, c'est un cloître. C'est une abbaye d'une certaine manière.
Oui, la bibliothèque a cette forme d'abbaye et a cette ambivalence entre l'introversion et l'extraversion, puisque la bibliothèque offre, et ça je trouve que c'est une position, je dirais, éthique d'une certaine façon, de responsabilité de l'architecte lorsqu'il travaille par rapport à une commande publique, c'est de produire un espace public qui va porter en fait l'investissement public, que ce soit une bibliothèque, un musée ou autre bâtiment pas uniquement culturel. Donc il y a commande publique, il y a espace public, l'esplanade de la bibliothèque est un espace public totalement ouvert, enfin, qui est vraiment absolument centrifuge, qui va dégager des perspectives sur dans les quatre directions, si je puis dire, nord, sud, est, ouest, etc. Et donc, c'est le dispositif, je dirais, de perception urbain. Ensuite, et en même temps, plus exactement, parce qu'il n'y a pas de séquençage dans le système, en même temps, il y a cette dimension introvertie du cloître et donc de l'abbaye. Et c'est en cela que les tours de la bibliothèque se différencient du plan voisin de Le Corbusier, c'est que ces quatre tours ne créent qu'un seul et même lieu.
Alors on reviendra peut-être là-dessus au cours de notre conversation, également sur cette notion d'histoire qui finalement me semble assez importante dans votre parcours. Mais on va d'abord faire un petit peu votre histoire et l'histoire de la vocation d'architecte de Dominique Perrault. Est-ce que d'ailleurs c'était une vocation pour vous ? L'architecture.
C'est difficile de dire que cela ne l'était pas aujourd'hui, mais en fait, ça ne l'était pas. Ce n'est pas en ces termes-là que cela se pose, c'est plutôt, et on célèbre actuellement mai 68, et mai 68, pour moi, c'était un moment, j'avais 14-15 ans, donc j'étais pas du tout dans les manifestations, j'habitais en banlieue, donc je faisais du stop pour venir à Paris, pour essayer d'être un peu dans le parfum du moment, mais enfin ça marchait plus ou moins bien, et donc j'arrivais difficilement jusqu'à la capitale. Toujours est-il que mai 68, pour moi, c'est une rupture importante, puisque je découvre par des liens d'amitié et l'architecture. Auprès d'amis très très proches qui se lancent dans l'architecture, donc qui sont un peu plus âgés que moi, et ces amis, au départ, peignaient, faisaient de la peinture. Et donc, je découvre la peinture. Je me mets à peindre, et je peins presque une dizaine d'années de façon très très intense. Et là, en fait...
Qu'est-ce que vous peignez, exactement? Est-ce que c'est figuratif?
Ah non, c'est plutôt, on pourrait appeler ça un peu une espèce d'abstraction lyrique. Je sais pas si exactement ça veut dire quelque chose, mais ça correspond à peu près à ce qu'on pouvait en voir. Par contre, cette abstraction lyrique, elle est liée à un processus qui est un processus assez fulgurant, puisque je peins sur des toiles cirées. Et donc, la peinture glisse avec des chiffons. Et donc, je couvre la toile de façon très, très immédiate. Et autant, aussi vite je la couvre, aussi vite je peux en repasser une couche, si je puis dire. Et ceci crée, en fait, un processus, si je puis dire, du point de vue de la relation avec la feuille blanche et la relation avec la création, qui est très libératoire. Et donc, lorsque je rentre dans l'école d'architecture, j'y entre pour des questions tout à fait matérielles, et puis des questions aussi familiales. Architecte, c'est un peu la paix des ménages, quoi. Donc, ce départ, si je puis dire, est assez formidable, parce que je fais de l'architecture comme je peins, c'est-à-dire avec un certain détachement par rapport à ce qui est créé. C'est-à-dire que je peux créer quelque chose, je peux le démonter, je peux le remonter et je peux le manipuler. J'ai pas peur de cette transformation, alors que dans le processus architectural, il y a un côté un peu laborieux parce que ce qui est manipulé est quelque chose qui est pas assez complexe et lourd, je dirais, dans tous les sens du terme. Et donc il y a une espèce de processus qui est assez normatif quelque part. Et les écoles, surtout l'école post-corbusienne, met en place des systèmes de représentation. Et finalement est un peu post-Beaux-Arts d'une certaine façon, puisque il y a des ficelles qui sont utilisées et qui sont évidemment beaucoup plus intéressantes que celles qui renvoient à l'école des Beaux-Arts académiques, mais malgré tout l'école se targue et se flatte d'avoir des méthodes de représentation liées au graphisme, liées à des questions de style. Et de cela, moi, j'en suis assez loin. Ça me permet d'être en toute liberté avec l'architecture. Et ça, c'est un élément qui compte beaucoup dans le développement futur, en liberté, mais aussi en défiance, d'une certaine façon, puisque, évidemment, s'il y a une sincérité totale dans le processus de création d'un projet architectural, mais il y a en même temps une certaine capacité à dire non, non. Et la bibliothèque est un non.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que, au fond, vous êtes resté un peintre toujours, ou est-ce que aujourd'hui vous diriez tout de même que vous êtes pleinement un architecte et que pour vous les arts plastiques, si évidemment ces arts plastiques ont été intégrés à votre pratique, c'est derrière vous?
Non, il n'y a pas d'amalgame entre être le peintre et l'architecte. Je suis définitivement un architecte, mais les racines et vraiment cette sensibilité liée à l'art est quelque chose qui m'a nourri, qui me nourrit et qui me nourrira. Donc ça fait partie de mon brain.
Ouais. Vous êtes un gros consommateur, par exemple, d'expositions?
Oui. Mais je suis surtout consommateur d'expériences plus réelles et de rencontres avec les artistes. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense beaucoup surtout au travail du Land Art et à un certain nombre d'œuvres liées au conceptuel ou minimaliste, où il faut être dedans d'une certaine façon ou être avec pour en avoir l'émotion.
Et d'ailleurs, on peut considérer que la bibliothèque, c'est en partie du Land Art, puisque votre idée, à un moment donné, était de prendre un rectangle de forêt existant, l'arracher d'une certaine façon et de l'installer au cœur de Paris, au cœur de la bibliothèque. Et ça, c'était du Land Art.
L'idée, on l'a réalisée. Puisque nous avons...
Mais ce n'est pas vraiment le rectangle que vous aviez choisi ici.
Non, ce n'est pas le rectangle que nous avions choisi, mais le rectangle que nous avions choisi nous a permis de cartographier de façon extrêmement précise où se trouvaient les différentes essences d'arbres et leur organisation naturelle. Il y a effectivement déjà une transposition, puisque ce n'est pas une restitution d'un morceau de forêt stricto sensu, mais c'est malgré tout un dispositif qui s'approche au plus près et au mieux d'un morceau de nature, d'un morceau de forêt d'Île-de-France.
Alors il n'y a pas un panneau quelque part dans une forêt qui serait devenu une clairière où vous auriez pu écrire « Ici se trouve l'absence de forêt, cette forêt qui a été transportée à l'intérieur de Paris ». Ça, vous n'avez pas pu vraiment le faire, Dominique Perrault?
Non, ça, nous n'avons pas pu le faire. Par contre, nous avons fait quelque chose avec François Mitterrand qui est de cet ordre-là, puisque il n'y a jamais eu de première pierre dans cette bibliothèque. Et donc, avec le président, il y a eu une action au sens de l'installation, au sens artistique, puisque une pierre a été prise dans les fondations du Louvre, dans la tour de Charles V, là où se trouvait la bibliothèque du roi, et cette pierre a été installée à la bibliothèque. On peut la voir à l'entrée d'une des grandes salles de recherche, au pied d'une des tours, et il est mentionné que cette tour vient effectivement du Louvre. Nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de notre démarche, parce que ce que vous évoquiez, c'est exactement ce que nous espérions faire, c'est-à-dire marquer en creux l'absence de cette pierre et expliquer que cette pierre n'est pas du tout perdue, mais au contraire, elle est même magnifiquement conservée dans la Bibliothèque nationale et constitue la pierre d'angle, ou tout au moins la première pierre de l'édifice.
Vous êtes un architecte conceptuel?
Oui, c'est ce qui se dit. Pour moi, l'architecture est conceptuelle, c'est-à-dire que l'architecture naît de la pensée. Et c'est en cela qu'elle est fascinante, parce qu'elle se transforme en physique. C'est-à-dire qu'elle est autant matière d'esprit à l'origine qu'elle devient strictement physique dans son résultat, puisque ce que l'on construit est physique. Et ce que l'on va ressentir, ce que l'on va voir, ce que l'on va utiliser est absolument physique. Donc ce passage de l'immatériel, du spirituel, de cette dimension abstraite finalement, jusqu'à une dimension qui est incontournable et qui est celle de la présence des murs, du sol, des plafonds, etc., de tout ce qui nous environne, ce qui nous entoure, ce qui nous enveloppe, nous protège, mais aussi qui nous sépare d'une certaine façon et que l'on appelle architecture, c'est physique.
Alors on est ici au Centre Pompidou, c'est un bâtiment évidemment iconique de Paris, construit en 1977 par Richard Rogers, Renzo Piano et Gianfranco Franchini. Vous aviez 24 ans à l'époque, quand il a été construit ce bâtiment. Vous veniez de déménager de Clermont-Ferrand, votre ville natale, pour faire vos études ici à Paris. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez pensé à l'époque de cet endroit ?
C'était un lieu de visite, puisque donc je faisais mes études à l'école des Beaux-Arts, donc sur l'autre rive, et nous faisions à l'époque des analyses urbaines, en particulier sur la rue des Rosiers,
à côté d'ici dans le Marais.
Voilà, juste à côté d'ici dans le Marais, absolument. Il y a évidemment se posait aussi la question de la transformation du quartier de Beaubourg, déclaré insalubre, ce qui a permis d'enclencher, si je puis dire, la mise en place de ce bâtiment extraordinaire qui est le Centre Pompidou. Donc on est dans une proximité de visite, de regard, sans très bien comprendre, parce que lorsqu'on commence ses études d'architecture, on ne mesure pas exactement toute l'importance de l'histoire récente, enfin l'histoire moderne de l'architecture, avec l'influence d'Archigram ou de Super Studio ou de grands mouvements qui ont porté en particulier le mouvement anglais. Il faut dire qu'à l'époque aussi, en France, exactement au même moment, Paul Andreux construit le Terminal 1, qui est pour moi un chef-d'œuvre d'architecture de béton. Et donc c'est exactement...
Terminal un peu brutaliste.
Oui, assez sophistiqué. Il a ses gerberettes à lui. Elles ne sont pas en métal, elles sont en béton. C'est un très très beau travail, comme le fait Nervi en Italie pour d'autres bâtiments, par exemple. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est une époque où l'architecture a cette dimension d'architectonique, c'est-à-dire on la retrouve dans un langage beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libéré d'une certaine façon, et évidemment Beaubourg en est un exemple magistral. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un bâtiment conçu par de jeunes architectes. Renzo Piano avait 36 ans à l'époque. Comme quoi, 36 ans semble être un
bon âge
d'or.
Pour faire des grands bâtiments dans Paris.
Ça doit être le bon âge garni aussi pour l'opéra. Donc Paris est très, très accueillant pour les architectes de 36 ans.
Mais alors, ce centre Pompidou, on l'a comparé à une usine au moment où il a ouvert. Et c'est peut-être pas d'ailleurs pour vous une critique, parce que j'ai l'impression que vous aimez un peu les usines. Et d'ailleurs, vous avez une agence qui est installée dans une ancienne usine, ou en tous les cas dans un ancien atelier. C'est quoi pour vous l'usine, Dominique Perrault ?
Nous avons toujours été dans des lieux industriels, puisque nous sommes restés durant la bibliothèque et après 15 ou 17 ans dans l'hôtel industriel, comme son nom l'indique.
Que vous avez construit.
Que nous avons construit. Et qui se trouve au bord du boulevard périphérique, qui est un prisme de verre et de métal, et qui nous a donné des plateaux extraordinaires, tout à fait ouverts sur un mouvement, le mouvement du boulevard périphérique lui-même. Mais
qui est
aussi,
pour vous, la plus belle avenue de Paris.
Oui, pour moi, je pense que ça deviendra la plus belle avenue de Paris.
Ah, ça l'est pas encore, maintenant qu'il y a le tribunal de grande instance, etc.
Non, du point de vue architecture, elle l'est. Du point de vue de son dispositif, si je puis dire, du point de vue de la mobilité, elle ne l'est pas encore. Par contre, si on fait le compte et le regard surtout des bâtiments qui sont bâtis le long du boulevard périphérique, il y a un nombre de chefs-d'œuvre tout à fait significatif. Je ne vois pas dans Paris de rues qui sont autant marquées. Faut dire qu'elle fait 40 kilomètres cette avenue, donc c'est quand même une avenue qui a une certaine dimension, mais qui a une dimension finalement assez compréhensible et compatible avec les grandes métropoles. Aujourd'hui, la métropole parisienne, au sens large du terme, au sens géographique, pas au sens politique, c'est 12 millions d'habitants. Donc on trouve dans le développement métropolitain ce type de dimension, finalement, et le périphérique s'y prête merveilleusement bien.
Ça reste plus agréable de se promener sur les Champs-Élysées, vous êtes d'accord ?
Pour l'instant.
Vous pensez que ça va vraiment changer ?
Ah, je pense que ça va absolument changer. Je pense que il y a une transformation qui est en marche, qui est importante, qui se développe de façon relativement rapide. Bon, évidemment, il faut la gérer politiquement, socialement, économiquement, mais cette transformation est en œuvre, est en route, entre autres avec l'arrivée des Jeux Olympiques, avec les grands équipements. Par exemple, le projet de l'hôpital Nord est une transformation très très importante qui complète finalement le lien entre Paris et Saint-Denis à sa façon. Donc on peut des exemples comme celui-ci, on peut les organiser et ils transforment tout à fait le tissu urbain. Et nous devenons métropolitains, nous sommes plus en ville. Le dernier projet urbain de Paris, c'était le projet de Seine-Rive-Gauche autour de la bibliothèque. Au-delà de ce projet, c'est-à-dire lorsque toute la Seine a été urbanisée d'est en ouest, eh bien Paris est sorti de ses limites.
Donc le périphérique, ce sont les Champs-Élysées du Grand Paris. Et bientôt, ce sera l'icône de Paris, l'emblème de la capitale.
Oui, oui, le périphérique nous nourrira et nous ravira, ce qui ne le fait pas aujourd'hui.
Donc, on a dit que vous aimiez cette architecture industrielle. Vous ne nous avez pas dit exactement ce que ça provoquait comme émotion en vous, finalement, cette idée de l'usine.
Alors, l'idée de l'usine, c'est être disponible tout en étant précis. C'est-à-dire que l'usine offre des espaces qui sont des espaces que l'on peut, je dirais, modifier, transformer en fonction de ce que l'on a à produire. C'est-à-dire que nous consommons beaucoup de volume. Lorsqu'on nous faisons des grandes maquettes, il faut pouvoir bouger les tables, il faut pouvoir utiliser des mezzanines, etc. Donc cette capacité à transformer des surfaces de travail en d'autres espaces est très liée à l'industrie, au process. Et on ne le fait pas pour des questions de rentabilité. C'est-à-dire on ne cherche pas à louer des mètres carrés. On cherche au contraire à organiser nos mètres carrés et nos mètres cubes pour pouvoir accueillir, pour pouvoir créer des workshops. Et en particulier, lorsqu'on travaille à l'étranger, évidemment, nos clients étrangers, nos partenaires étrangers viennent à Paris, mais ils ne viennent pas pour 2 heures. Ils viennent pour plusieurs jours. Donc il y a cet échange permanent entre le lieu industriel et puis le processus de production. Et puis l'autre élément qu'évoque l'industrie, c'est la précision.
Ça vous fascine ?
Oui, ça me fascine et je trouve ça extrêmement reposant. Je trouve ça extraordinairement reposant de dessiner quelque chose et que ce détail, cet élément ou ces ensembles soient fabriqués avec le même soin, avec la même qualité que celles qui ont présidé à leur conception. Et cette espèce d'équilibre entre le dessin à l'ordinateur aujourd'hui en 3 dimensions et une chaîne de production qui va par des outils et des processus de, je dirais, eux aussi numérisés, vont être en fil direct du point de vue entre la table à dessin et le bâtiment lui-même est quelque chose qui est extrêmement agréable. Ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans une phase intermédiaire. Nous avons plus de bugs entre nos dessins et le chantier qu'auparavant, puisque effectivement il y a une perte d'une certaine façon de la qualité de la construction, mais ceci va évoluer petit à petit, puisque de gré ou de force, nos amis des entreprises générales, nos grands groupes industriels qui sont en charge de la construction, vont être petit à petit patrons d'usines, et c'est eux qui vont gérer effectivement avec Google et Amazon la livraison de ces pièces parfaitement bien définies et les assembleront sur place. Donc l'architecture de précision a de très beaux jours devant elle.
En fait, vous semblez être quelqu'un, Dominique Perrault, qui dit oui à l'avenir et qui dit oui au futur. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur de l'avenir. Comment ça se passe quand on est un architecte et qu'on pense à la manière dont on gardera les bâtiments qu'on construit dans 20 ou 30 ans? Comment ça se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous dites?
On ne se dit rien, parce qu'on pense aux projets qui sont en cours, on pense aux réflexions qui sont menées, mais l'exposition de la bibliothèque sur la bibliothèque qui retrace ces 10 années de travail.
Exposition jusqu'au 22 juillet 2018.
Dans la bibliothèque elle-même. C'est un moment très particulier. C'est assez unique qu'un architecte présente le travail qui a été le processus de conception et de réalisation d'un bâtiment dans le bâtiment lui-même et de son vivant. Donc, y a une dimension qui est extraordinairement émotionnelle, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, puisque chaque document, lorsque vous le sortez ou vous le retrouvez, vous passez 2 heures à le contempler en vous souvenant du moment et de l'époque. Mais aussi, il y a une dimension de travail sur l'œuvre elle-même qui est tout à fait intéressante. Et ça permet d'opérer une critique, un regard, et ces critiques et ces regards vont être rassemblés dans une monographie qui va être publiée dans quelques semaines par les éditions X et qui va mettre en perspective ces documents, qui sont des documents, comme on cherche à le montrer dans l'exposition, qui sont des documents qui célèbrent un passage entre le dessin à la main vers la numérisation et la digitalisation.
Alors comment, justement, donc vous dites que quand on travaille un bâtiment, on travaille pour le présent, mais forcément vous pensez à l'avenir. Comment faites-vous pour que votre bâtiment soit le moins démodé possible, 20 ans, 30 ans, même 40 ans plus tard?
On me pose souvent la question du style, le style Perrault. C'est une question qui revient assez souvent. Il n'y a pas de style Perrault au sens du graphisme et au sens du design. Il y a une attitude Perrault.
On reconnaît quand même vos bâtiments les uns, oui, par rapport aux autres.
Oui, parce qu'on utilise les matériaux pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que dans chaque projet, le métal joue le rôle de métal, c'est-à-dire des éléments de structure. Le béton a cette dimension architectonique. Le bois est souvent pris en pleine feuille, etc. Donc d'un point de vue même de tactile, il y a un fil conducteur, mais c'est surtout une attitude, et c'est ce qui organise, si je puis dire, ces lieux et ces espaces, en considérant qu'il n'y a pas de lieu maudit. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où l'on va intervenir, que cet endroit soit déjà
au bord du périphérique, par exemple,
au bord du périphérique, mais aussi à Versailles, donc le contraste peut être élevé. Il y a en fait un déjà là, et ce déjà là, qu'il soit prestigieux ou bien à l'abandon, est à considérer et est considérable en fait dans la réflexion urbaine, architecturale. Et c'est pour cela que le paysage intervient en permanence dans tous ces projets. Il intervient de façon très variée, il peut intervenir même de façon presque picturale, puisqu'on a construit des logements à Lille où toutes les façades sont en verre émaillé avec une impression de nature et donc de peinture, comme si c'était un paysage de campagne.
Les reflets du ciel sont toujours très importants dans vos bâtiments. Vous les prenez toujours en compte. C'est ça, travailler avec le paysage ?
Oui, c'est la lumière. Parce que la lumière est évidemment vitale dans notre vie, mais dans l'architecture. Et la lumière a pris une importance encore plus grande puisque on développe cette notion d'épiderme. J'allais dire presque de ce qu'on appelle petit à petit, nous, « groundscape ». C'est-à-dire un travail qui cherche à ne pas nommer le underground, le sous-sol, la cour anglaise, etc.
Le groundscape, c'est le paysage du sous-sol.
Exactement, c'est l'opposé. Exactement, c'est l'opposé du landscape, c'est le paysage du sous-sol. Et puis on commence à imaginer un terme encore plus globalisant qu'on appellerait le sous-terrestre. C'est-à-dire comme il y a l'extraterrestre, on pense qu'il y a un sous-terrestre.
Peut-être pour que les auditeurs comprennent bien cette notion de groundscape, c'est par exemple quand à la Bibliothèque nationale, vous décidez que beaucoup des fonctions du bâtiment vont être enterrées, mais que ce ne sera pas pour autant un sous-sol puisque vous creusez une forêt et que les fenêtres donnent sur cette forêt. Donc c'est à la fois le sous-sol, mais en même temps c'est un paysage. Vous avez d'autres exemples de groundscape ?
Oui, bien sûr, puisque la bibliothèque est fondatrice de cette organisation qui s'inscrit dans le sol et qui, si cette organisation se développait, comme on a la possibilité de le faire aujourd'hui dans certains de nos projets, pour devenir un réseau, comme un espèce de système racinaire, ça permet de créer en fait une activation de cette épaisseur du sol, de cet épiderme de nos villes, qui leur offre résilience, mais aussi tout un ensemble de services à proximité, étant entendu qu'il ne s'agit pas d'habiter dans le sous-sol. C'est-à-dire, on n'est pas dans un travail de ville sous la ville. On est dans un travail d'un biotope qui créerait des racines à nos bâtiments. Et ce développement, il opère dans tous les domaines. Par exemple, Berlin, piscine et vélodrome olympique, un concours international qui est gagné presque en 93, donc un petit peu avant que la bibliothèque soit inaugurée par François Mitterrand, un dispositif qui est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la bibliothèque, l'architecture entoure le jardin. À Berlin, c'est plutôt un grand verger qui accueille en son centre deux formes, une forme ronde et une forme rectangulaire, incrustées dans le sol, avec des volumes importants puisque ce sont des halls de sport.
Voilà, il faut dire que donc le toit de cette forme ronde qui est évidemment le vélodrome et de cette forme rectangulaire qui est évidemment la piscine est exactement au niveau du sol, ce qui fait que en effet ce sont des bâtiments dont le toit sont à la hauteur de l'herbe et on doit ne pas les voir, j'imagine, c'est ça l'idée. Et vous avez planté des pommiers un petit peu tout autour.
Ou plus exactement, on les voit comme une surface d'eau d'une certaine façon. Il y a un projet qu'on a réalisé avant la bibliothèque qui était la transformation d'un petit château pour Usinor Sacilor à l'époque, comme un centre de conférence. Et on a posé ce château, qui n'est pas un château de merveilleux de par son architecture, mais qui a la qualité d'être là, au milieu d'un parc. Et on a posé ce château sur un disque de verre, au niveau du sol. Et lorsqu'on arrive, on a l'impression qu'il y a un bassin, que ce château est posé comme une île au centre d'un plan d'eau. À Berlin, c'est un petit peu le même système, c'est-à-dire qu'à Berlin, il y a un travail avec du tissu métallique qui va créer un petit peu comme un petit clapot, si on peut dire, d'un plan d'eau. Et donc la lumière va se refléter dessus et on va avoir le sentiment, sans que ça soit une évocation directe, que c'est une surface d'eau.
Alors parlons un peu, Dominique Perrault, de la manière dont vous travaillez. Comment ça se passe sur un projet quand vous commencez à réfléchir sur ce projet? Quelle est la première chose que vous faites?
En fait, on mène plusieurs approches. Il y a une réflexion que je mène qui, quand je dis je j'insiste sur ce jeu parce qu'il y a
ça doit être personnel à un moment donné.
Moi, je fonctionne comme ça. Ça ne dure pas longtemps. Je partage très vite. Mais il y a un moment où je dois être seul. C'est pas pour ça que je trouve, pour autant. Mais il y a un moment qui est en même temps extrêmement fort, aussi bien dans l'émotion que d'une certaine angoisse, d'une certaine façon, mais qui est nécessaire pour mesurer un peu la confrontation, si je puis dire, ou ce avec quoi on va dialoguer. Et c'est un moment important parce que, si vous voulez, je vais sur un site, il y a une époque, j'avais dit, et je l'ai redit, et je continue à le dire d'ailleurs, que je ne vais jamais visiter le site. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est que je ne vais pas visiter le site au départ. Au départ, je travaille avec des cartes, avec des photos, avec le programme.
Pourquoi ne pas aller voir le site ? Comme problème ?
Parce que le site est un acteur et il faut pouvoir lui parler. Enfin, moi, j'ai besoin d'avoir cet échange. Donc, vous imaginez que vous avez un très beau site. Donc, vous allez voir le site, c'est tellement beau, il ne faut rien faire. Ou bien vous allez voir un site totalement horrible, vous revenez, vous êtes désespéré. Donc la relation avec le site doit être une relation d'échange, de confrontation, et dans le sens d'un processus de création. Et donc je pense d'abord, je visite ensuite, et après se met en place à ce moment-là un travail plutôt assez scientifique d'une certaine façon, puisqu'on fait des hypothèses, pas des scénarios, mais des hypothèses, et que l'on va tester, soit en maquette, soit en 3D aujourd'hui, soit en dessin. Donc on se met en place tout un faisceau d'expériences et qui vont se croiser ou pas, et qui vont être là partagées, portées par une équipe, et petit à petit ce qui aura été senti, perçu et établi dans la confrontation initiale va être nourri par ce processus de production architecturale.
Est-ce que c'est également nourri par une documentation importante, des lectures, des recherches historiques peut-être, ou philosophiques, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut nourrir un projet ?
Tout nourrit un projet, et avec le temps, évidemment, les regards, les expériences, les souvenirs se multiplient. Donc, mais il crée un environnement. En fait, ce qui nourrit le plus un projet, ce sont les autres projets. C'est-à-dire que depuis que nous avons quitté l'hôtel industriel pour nous installer dans une autre usine, effectivement, dans le 11e arrondissement.
Votre agence était aussi, au départ, vous avez été rue du Temple, puis dans l'hôtel industriel que vous avez construit, puis maintenant, donc, dans cette usine réhabilitée.
Exactement. Et donc, dans ce changement de lieu, ce retour en ville, parce que l'hôtel industriel, nous étions vraiment au bord de Paris, dans les infrastructures, ce retour en ville nous a aussi fait réfléchir sur des développements, ou plus exactement une organisation un peu plus arborescente, dans le sens où nous développons de façon très très active des plateformes de recherche. Groundscape, donc la question du sol, en est une, mais dans le cadre de l'atelier international du Grand Paris, on a travaillé sur le vide, on a travaillé aussi sur des notions de constellation, c'est-à-dire modifier par des systèmes de constellation avec des points qui sont des lieux de services d'accueil, d'hébergement pour les 12 millions d'habitants de la métropole, de façon à faire exploser les limites administratives et politiques du Grand Paris, et avoir une lecture de la carte du Grand Paris par rapport à des besoins, par rapport toujours à une notion de proximité. C'est-à-dire que autant c'est absolument épuisant de se déplacer sur le territoire de la métropole pour aller vivre ici, travailler là-bas, et ça nous fatigue, mais ça fatigue la ville également. Et donc cette notion de proximité, cette idée de se déplacer, certes, mais pas toujours et le moins souvent possible, est quelque chose qui est très intéressant en termes pour s'établir, pour s'inscrire, pour vivre avec ses proches, mais aussi vivre avec les autres. Donc cette dimension-là est une dimension que je trouve toujours intéressante à mettre en contrepoint des grands réseaux de transport, des grandes aires métropolitaines, les uns n'étant pas contradictoires avec les autres, mais les uns équilibrant les autres.
Et quand vous dites que chaque projet se nourrit du précédent, peut-être que chaque projet est également une réponse au précédent. En quoi est-ce que votre travail sur la réhabilitation de la Poste, en ce moment la Grande Poste du Louvre à Paris, descend directement de votre travail sur la Bibliothèque nationale de France, par exemple ? Ça paraît très différent.
C'est très différent. C'est pour ça qu'il y a plusieurs plateformes. Donc, lorsqu'on travaille sur la notion de faire avec, on peut faire référence, par exemple, aux archives départementales de la Mayenne, qui est un bâtiment qui fonctionne au regard et en écho d'un bâtiment du 19e siècle. On peut faire référence aussi au Conseil général du département de la Meuse, qui est une extension, si je puis dire, ou une transformation d'une école primaire à Bar-le-Duc. On peut faire référence, évidemment, à Versailles, qui est dans un travail d'extension du château, puisque le château, pour le dire clairement et de façon tout à fait évidente, le château était trop petit pour accueillir ces millions de visiteurs. Il pouvait les accueillir, mais ils ne pouvaient pas se croiser pour ressortir après leur visite. Donc chaque fois, il y a une relation à ce qui existe, une transformation de ce qui existe. Dans le cadre de la bibliothèque, ce qui existait, c'était le vide. Et on s'est inspiré de ce grand vide qui était cette friche industrielle.
C'était même un vide très impressionnant. C'était le plus grand vide de Paris. Et ça a dû vous faire peur à un moment donné, de vous demander comment est-ce qu'on peut remplir un vide aussi grand. Comment est-ce qu'on peut faire un bâtiment qui ne soit pas trop, imposant sur cet espace-là?
Exactement. C'est-à-dire que ça ne fait pas peur, mais ça pose la question de la responsabilité. C'est-à-dire que la bibliothèque, c'est trois fois le volume du centre Georges Pompidou. Donc c'est un bâtiment énorme, c'est presque un monstre du point de vue de sa dimension et de son volume. Et donc comment ce premier germe, finalement, ce premier élément de développement d'un grand quartier, car là où il y avait une connivence et une intelligence partagée entre Jacques Chirac et François Mitterrand, c'était bien, à terme, de bâtir l'un avec l'autre, l'un avec le projet d'État, la Bibliothèque nationale, et l'autre avec le développement d'un quartier de Paris, et pas des moindres, puisque c'est un quartier, comme on l'évoquait tout à l'heure, le long de la Seine, de bâtir un nouveau quartier. Donc la responsabilité de l'architecte...
Ça vous a fait peur, cette responsabilité ?
Non, c'est pas en ces termes-là. Ça augmente, si je puis dire, la densité et l'intensité de la réflexion, parce que il ne suffit pas de répondre à un programme qui est déjà un programme complexe et d'une bibliothèque nationale et particulièrement spécifique. Il faut aussi que ce programme s'intègre dans une programmation urbaine, ou tout au moins qu'il n'handicape pas des programmations urbaines à venir qu'on ne connaît pas au moment où on crée le bâtiment lui-même. Donc c'est absolument passionnant du point de vue intellectuel, c'est-à-dire que ce soit un bâtiment en étant qu'il ne soit pas vraiment un bâtiment, afin qu'il y ait cette capacité et cette disponibilité pour traverser, si je puis dire, le temps au regard des deux décennies ou trois décennies aujourd'hui qui ont permis au quartier de se mettre en place. Et de ce point de vue-là, la bibliothèque apparaît et ne fait que apparaître comme étant le cœur du quartier, l'espace public qui est à disposition, et avec la passerelle qui a été réalisée, qui figurait déjà au moment du concours.
Au-dessus de la Seine.
Voilà, ce qui est très intéressant. Et cette passerelle, dès l'origine, avait été pensée afin de relier le quartier de la rive gauche au quartier de la rive droite, au grand jardin de Bercy. Et donc, finalement, on a là une espèce d'agrafe entre une grande esplanade piétonne, une passerelle et un grand jardin sur l'autre rive. Et c'est donc des espaces publics qui permettent de faire naître et générer finalement toute cette partie de l'Est parisien en ville.
Mais alors, ce projet de la très grande bibliothèque, c'est tout de même un projet hors norme, et notamment parce que le commanditaire, c'est l'État, mais c'était aussi un peu François Mitterrand lui-même. Il avait son idée tout de même sur ce qu'il fallait faire de cette bibliothèque. Je crois qu'il a même été jusqu'à suggérer de supprimer les passerelles qui devaient initialement quadriller le jardin, enfin la forêt, pour que la spiritualité du lieu soit davantage perceptible. Est-ce que vous pouvez nous raconter la relation que vous avez eue à ce moment-là avec celui qui était président de la République ?
Il faut situer François Mitterrand dans le cadre du deuxième septennat. Donc ce n'est pas le même François Mitterrand. C'est-à-dire que dans le premier septennat, il y a le lancement des grands travaux au pluriel. Dans le deuxième septennat, il y a un projet, qui est le projet de la Bibliothèque nationale, d'une nouvelle Bibliothèque nationale, avec un acquis extraordinaire au niveau de l'État, au niveau de ceux qui dirigent ces grands établissements, qui tirent les leçons et le fruit des expériences du premier septennat. À l'époque, la France fait pâlir de jalousie, entre autres les Anglais, mais ça c'est assez récurrent, mais fait pâlir de jalousie les pouvoirs, si je puis dire, et les gouvernements étrangers, car elle a cette capacité à générer des grands projets et un État avec des femmes et des hommes qui pilotent cet État et qui ont cette compétence, cette clairvoyance aussi, d'être capable de réaliser donc des grands bâtiments et des grands projets qui transforment les villes, et en particulier Paris, puisque les grands travaux sont surtout orientés sur la transformation de Paris. Donc c'est important à dire, car François Mitterrand donne en fait et apporte une espèce de niveau exceptionnel d'exigence et de rayonnement à ces grands travaux.
Et d'implication tout de même dans le projet, puisqu'il vient vous voir régulièrement.
Oui, alors évidemment il s'impliquait sur d'autres projets, mais sur celui-ci particulièrement, car c'est un projet dont il est proche. C'est un projet aussi qui a un enjeu extraordinaire, puisque lorsque le concours est lancé, à peu près 5 millions de livres doivent traverser la Seine pour aller de Richelieu vers Tolbiac. En fait, très rapidement, les décisions sont prises, les choix sont pris pour que tout l'écrit traverse la Seine. Ce n'est plus 5 millions d'ouvrages, mais environ 12 millions. Donc la bibliothèque s'inscrit justement dans ce passage que j'évoquais tout à l'heure. Je rappelle, 1989, c'est l'année du mur de Berlin. Donc les territoires s'ouvrent, les esprits comme les territoires s'élargissent. Et il y a donc un ancrage évidemment extrêmement fort du physique.
Mais je vois que vous ne voulez pas nous raconter comment François Mitterrand venait vous voir dans votre agence et ce qu'il vous disait.
Je vais y venir, mais je pense que c'est important de montrer et de sentir l'importance de ce projet et ce qui est assez naturellement en conséquence, c'est l'intérêt et le suivi du président, qui est un homme qui effectivement est venu non seulement dans notre bureau, mais évidemment sur le chantier lui-même. Je l'ai vu plus de 20 fois en 5 ans et je ne suis allé que 3 fois à l'Élysée. Donc il était présent sur les lieux de production. Et sa question permanente, c'était construire, réaliser un lieu d'étude. Et bien, il n'a jamais parlé de livres. Les livres, c'était évident, dans une bibliothèque, il y a des livres. Donc les livres n'étaient pas le sujet en soi. Le sujet, c'était que ces livres soient à disposition, que les lecteurs puissent travailler ensemble, qu'il y ait effectivement cette dimension un petit peu monastique que l'on évoquait tout à l'heure, qui est la notion de lieu d'étude, c'est-à-dire une dimension tactile, une dimension sensorielle, un lieu calme, un lieu qui est refermé sur lui-même de façon à pouvoir être seul avec son ouvrage. Mais aujourd'hui, évidemment, ça va plus loin. Et la mise en place de la numérisation des ouvrages et de nombreux ouvrages de la bibliothèque permet d'avoir sur sa table non seulement l'ouvrage papier, mais aussi, évidemment, son ordinateur, et être en relation avec un réseau, planétaire. Donc, mais on est au-delà du livre, mais on est quand même dans le lieu d'étude. Et le succès de la bibliothèque aujourd'hui, car le nombre de lecteurs augmente, ce qui est quand même un élément très intéressant à noter. Les gens viennent lire, ils viennent y travailler, ils viennent s'y retrouver, et en nombre de plus en plus important, car il y a un lieu d'étude.
Alors je ne sais pas si on peut dire que vous avez collaboré avec François Mitterrand, mais ça me fait tout de même une transition pour parler de la question des collaborations. Vous avez collaboré avec Daniel Buren, par exemple, sur le projet de l'île Séguin. Vous collaborez aussi, évidemment, avec les personnes qui travaillent avec vous dans votre agence. Je pense en particulier à Gaël Loriot-Prévost, qui est designer dans votre agence et qui a réalisé un certain nombre de choses avec vous depuis longtemps. C'est quoi la collaboration? Comment est-ce que on travaille à deux? Prenons avec Daniel Buren l'exemple de l'île Séguin.
Alors, la collaboration, c'est partager quelque chose. C'est pas forcément commencer ensemble tout de suite, mais c'est partager le processus. Le travail avec Daniel sur l'île Séguin est un travail plutôt de partage, de conception. Nous avons fait d'autres choses avec lui, importantes. Très beau travail à Innsbruck pour la transformation de l'hôtel de ville de Innsbruck, où Daniel a réalisé entre autres une verrière tout à fait exceptionnelle. Mais il y a aussi Kogler comme autre artiste qui est intervenu, Isaac Gesken. Donc ces interventions sont toutes liées à des échanges et aussi à des disponibilités qu'offrent ces projets, qui sont souvent, il faut le dire, des projets publics. Hôtel de ville, l'île Séguin, qui est un morceau de géographie, et autres. Kowalski, qui a été notre première collaboration, Piotr Kowalski, qui a réalisé une grande aiguille devant l'école d'ingénieurs à Marne-la-Vallée, à Champs-sur-Marne, aiguille de 32 mètres de hauteur en inox sur un champ de lave et de basalte, aiguille qui est parallèle à l'axe de la Terre. Donc ces travaux, le travail de ces artistes, sont des travaux au Pistoletto à Naples, avec des grandes fresques à l'intérieur et à 40 mètres de profondeur dans le métro de la Piazza Garibaldi. Donc ce sont des partages de moments, de lieux qui sont très forts, mais qui sont marqués, si je puis dire, dans le temps et au regard d'un projet. Le travail avec Gaël Loriot-Prévost est un travail qui s'inscrit dans la durée des projets architecturaux.
Puisqu'elle travaillait déjà, par exemple, sur la Bibliothèque nationale les années 90, au début des années 90.
Absolument, mais la part de son travail est cette architecture intérieure, c'est-à-dire, et surtout le travail du mobilier, c'est-à-dire que nous dessinons ensemble, et surtout elle, un mobilier qui est un mobilier par destination. C'est-à-dire, c'est un mobilier, si on retournait la table ou si on retournait le projet, on n'arriverait pas à ce qu'il tombe. C'est un mobilier qui s'enracine dans l'architecture, qui contrôle le travail des architectes, avec la lumière, avec tous les éléments, les proportions des éléments, que ce soit des lattes de parquet ou bien des tissus métalliques. Il y a donc là un partage qui est plus un partage, je dirais, d'architecture, et dans un processus qui est un processus qui dure des années. Le travail avec les artistes est un travail qui est plus intense, plus exceptionnel, mais plus momentané. Et donc les collaborations, elles sont diverses, et c'est ce qui est riche, c'est-à-dire que il y a des moments, il y a des durées, il y a des lieux. Et c'est ce qui crée petit à petit la complexité, mais aussi la richesse de ces architectures.
Alors on s'approche, Dominique Perrault, tout doucement de la fin de cette masterclass, et on va vous donner le traditionnel super pouvoir qu'on donne à nos invités ici, qui est de pouvoir changer dans votre carrière quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Quel bâtiment aimeriez-vous retoucher, et dans quel sens?
C'est évidemment, on a toujours une question complexe. Moi, Je ne sais pas si j'aimerais retoucher quelque chose, mais par exemple, j'aimerais aller un peu à contre-courant, même si c'est de dispositifs qui se mettent en place, même s'il faut les accepter et qu'ils sont nécessaires. Par exemple, la Cour européenne de justice. La Cour européenne de justice de Luxembourg est un bâtiment tout à fait exceptionnel dans l'histoire des bâtiments européens, puisque c'est le seul bâtiment qui s'est reconstruit sur lui-même depuis 30 ans. Donc on a commencé par un premier palais en métal, ensuite les extensions du palais, première extension, deuxième extension, les tours que vous avez évoquées tout à l'heure. Nous construisons actuellement une troisième tour. C'est un bâtiment de 700 mètres de longueur. Il y a plusieurs milliers évidemment de personnes qui travaillent à l'intérieur. C'est une cité dont l'esprit et je dirais même l'âme consistait à s'ouvrir sur la ville, s'ouvrir sur le quartier, s'ouvrir sur le plateau européen, puisque c'est une cour de justice où personne n'arrive menotté, il n'y a pas de fourgon blindé qui rentre dans la cour de justice, même s'il y a certainement des délits. Ceci dit, cette cour était ouverte. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité que l'on comprend et que l'on accepte évidemment et que l'on assume, eh bien, nous sommes en train de faire un travail de séparation. On est en train de développer un mur avec des plantes, avec du verre, etc. Mais l'institution se replie sur elle-même.
Donc ça, c'est un regret pour vous.
C'est un regret, mais c'est un regret que l'on peut développer sur d'autres partout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de séparation extrêmement violente, physique, entre ces lieux qui sont des lieux emblématiques, des lieux collectifs. Le fait d'être obligé de créer un mur de séparation sous la tour Eiffel pour qu'on soit protégé est évidemment un élément, encore une fois, que l'on accepte, que l'on assume et qui est nécessaire, mais on ne peut pas dire que l'on en soit extrêmement heureux.
Mais on peut peut-être espérer que dans le futur, on n'ait plus besoin ou moins besoin de se protéger de cette manière-là. Est-ce qu'on progresse dans son art, Dominique Perrault? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous êtes meilleur que quand vous avez commencé, ou au moins dans vos premières années, quand vous étiez dans cette agence de la rue du Temple qui vous a vu débuter?
Ce qui est assez jubilatoire lorsqu'on vieillit, parce que c'est quand même en ces termes qu'il faut poser les questions, c'est la capacité de multiplier et de démultiplier les expériences et les projets. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir petit à petit s'attaquer à des territoires, s'attaquer à la transformation de ces territoires grâce et à cause de l'architecture. Et je dois dire que pour moi, l'architecture n'en a de raison que si elle transforme les lieux en d'autres lieux, une nature en une autre nature, un territoire en un autre territoire, et ça c'est son pouvoir absolu, mais c'est son pouvoir nécessaire.
Merci beaucoup Dominique Perrault pour cette masterclass enregistrée en public, et je remercie au passage le public au Centre Pompidou à l'occasion du festival conjoint France Culture Centre Pompidou Imagine. Merci aux équipes de Beaubourg et merci évidemment aux équipes de France Culture.
C'était la masterclass de Dominique Perrault avec Mathieu Garrigou-Lagrange. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Guergaillant.